La clé de la vie. À la naissance de chaque être humain, c'est-à-dire un homme, Dieu lui remet une clé de la vie. L'homme doit faire le choix de garder cette clé de la vie ou de rejeter cette clé. Dieu ne l'oblige pas, mais Dieu lui propose de vivre. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il faut bien savoir que cet homme existait avant qu'il soit créé sur la terre. Cet homme existait dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire Christ. Car Christ est la vie, la pensée et le pouvoir de Dieu. Car il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous trouvons cela dans Jérémie 1. 4 et 5. Cela veut dire tout simplement que nous avons existé, mais dans les pensées de Dieu, c'est-à-dire spirituellement, sans corps, car Dieu est le Père des esprits. En nous donnant un corps que nous avons actuellement, c'est-à-dire un corps de chair, de sang et d'eau, en même temps, Dieu donne à chacun une clé de la vie. Mais cette clé est codée. Il faut savoir la décoder pour savoir comment l'utiliser. Il y a parmi les hommes ceux qui refusent, donc ceux-là ne veulent même pas garder cette clé. Et il y a ceux qui veulent garder cette clé et savoir comment la décoder pour ensuite apprendre à l'utiliser. On peut dire que le cas d'Adam est semblable à ceux qui ont rejeté cette clé. Ils n'ont même pas cherché à savoir comment la décoder. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 3. Nous allons prendre les versets de 9 à 12 et 17 et 18. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Par ces passages, on démontre très bien le rejet de la clé de la vie par Adam. Adam a choisi la mort. Si Adam avait choisi de manger les arbres du jardin, Adam aurait eu la vie, un corps incorruptible. Il aurait su comment décoder la clé de la vie. Cela lui aurait permis d'ouvrir le royaume de Dieu et du Christ. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. En accomplissant cet ordre de Dieu, Adam aurait su décoder le code de la clé afin de pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire ouvrir l'abri du Très-Haut pour se réfugier sous l'ombre de l'Éternel Dieu en cas d'un problème menaçant sa vie. Mais hélas, Adam a préféré rejeter carrément la clé de la vie. Il est donc devenu mortel. Ami du monde, manger les fruits des arbres du jardin, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu, Christ, être le corps de cette parole de Dieu, corps du Christ, fusionner avec Christ, la parole de Dieu, être sous le pouvoir du Christ, faire de sa chair la parole de Dieu. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si Adam avait cherché à décoder la clé de la vie, la chair de son corps serait la parole de Dieu, c'est-à-dire revêtue de la parole. Ainsi, le corps d'Adam serait devenu le corps de la parole, Christ. Cette vie de Dieu serait mise en mouvement selon son Créateur, l'Éternel Dieu, dans le corps d'Adam. Adam serait alors le Fils de Dieu. Ainsi, Adam vivrait éternellement. Dieu va donc mettre en œuvre, suite à ce rejet de la clé de la vie, et pour permettre aux descendants d'Adam d'être rachetés par Jésus-Christ, ceux qui accepteront de garder la clé, un mécanisme qui permettra à ces rachetés d'apprendre comment décoder cette clé, afin de pouvoir s'en servir et ouvrir l'abri de l'Éternel et de demeurer sous l'ombre du Très-Haut, pour qu'à la fin de la course, ces rachetés puissent ouvrir la porte du royaume, s'ils persévèrent à l'abri de l'Éternel Dieu, leur Père adoptif. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, par la volonté de son Père, appellera alors parmi les rachetés quelques-uns pour accomplir cette mission. Mission d'apprendre à leurs frères et sœurs l'utilisation et comment décoder cette clé. Il va les rendre capables pour l'exercice de ces ministères. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas les écoles des hommes, telles que l'école biblique ou théologique, qui forment les enseignants de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui assume cette mission de former et d'établir ses ministres, missionnaires et enseignants. Et c'est Jésus-Christ qui les envoie en mission après les avoir formés. Jean 15, 16, 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ étant toujours vivant, assiste et conduit ses serviteurs, qu'il appelle tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il les conduit par l'Esprit de Dieu, l'un de la plénitude de la divinité. Matthieu 28. De 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Nous insistons bien, aucune école des hommes ne peut former un serviteur de Jésus-Christ. Ces écoles forment des historiens. Jésus est né à Bethléem. Il est le fils de Marie, fiancée de Joseph, de la tribu de David, le roi d'Israël. Jésus est né sans la participation de l'homme. Cela est une histoire. Cette vérité qui est en Jésus. Donc, ce saint enfant n'est pas enseigné par les écoles des hommes. Luc 1, versets de 26 à 31. Et ensuite, nous prendrons les versets 34, 35 et 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Oui, c'est une histoire, mais connaître la vérité qui est en Jésus, le Fils de Dieu, cela ne peut venir de l'intelligence humaine, ni de l'école des hommes. Aucune école des hommes ne peut connaître cette vérité. Seul l'Esprit de Dieu peut révéler la vérité qui est en Jésus. Jean 16, versets de 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. 1 Corinthiens 2, versets de 9 à 16. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Cela confirme bien que les écoles des hommes ne forment pas un serviteur de Jésus-Christ. Pour prouver cela, si vous lisez ces passages sur l'évangile de Luc, l'ange de Dieu ne parle pas de Sainte Marie, la fiancée de Joseph, mais d'une vierge. Alors les religieux de certaines religions parlent de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie n'est pas la Mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, l'homme. Dieu n'a pas de mère ni de père. On appelle cela la falsification de la vérité. Frères et sœurs en Christ, Dieu a donné la clé de la vie à l'homme. Comme il a été dit, Adam a rejeté cette clé. En ce qui concerne les rachetés, le Seigneur a récupéré cette clé qu'Adam avait donnée à Satan, le roi du monde. Jésus-Christ, après avoir récupéré cette clé, il l'a donnée à tous les rachetés descendants d'Adam. Mais tous n'ont pas choisi de garder cette clé. Gloire à Dieu, car quelques-uns ont gardé cette clé jusqu'au bout. Hélas, il y en a aussi quelques-uns qui ont rejeté la clé comme leur père Adam. Jésus, l'homme, s'est servi de cette clé. Il s'est bien servi de la clé de la vie. Il a ouvert la porte du royaume, et il siège aujourd'hui à la droite du Père dans les lieux très hauts. Et au cours de son séjour ici sur la terre, par la foi, il a aussi ouvert l'abri de Dieu son Père, et il était sous l'ombre de son Père. Ainsi, Il nous a montré lui-même l'exemple, comment la décoder pour s'en servir. Hébreux 1, 3 à 5. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Voilà ce qu'apporte la clé de la vie. Avec la bonne connaissance du décodage de la clé, cela permettra l'ouverture de l'abri et du royaume. Voici ce que cela fait de nous, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il a ouvert l'abri et le royaume. L'abri de l'Éternel se trouve ici sur la terre. La porte du royaume, la porte d'entrée, est aussi sur la terre. C'est-à-dire, c'est sur la terre qu'on ouvre aussi la porte du royaume par notre vie, selon la parole de Dieu. On entre dans l'abri par la foi. À la fin de la course, on entre dans le royaume avec un corps ressuscité, à l'exemple de celui de Jésus-Christ ressuscité. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vivre par la foi, c'est entrer dans l'abri du Très-Haut, être sous l'ombre de l'Éternel. Ainsi donc, l'arche de Noé était l'abri du Très-Haut, pour préserver la vie de Noé et sa famille. Car le déluge menaçait Noé et sa famille de les faire périr. Mais grâce à l'arche, leur vie a été préservée. Mais Noé et sa famille ont-ils persévéré dans l'abri? Non. Ils sont demeurés mortels, car ils sont sortis. Daniel, sa vie, était aussi menacée par les fauves, les lions. Par la foi, Daniel s'est servi de la clé. Il est entré dans l'abri de l'Éternel. Les fauves, les lions n'ont pas pu le dévorer, car Daniel était dans l'abri de l'Éternel. Même les amis de Daniel, le feu ne pouvait pas les consumer, car ils étaient dans l'abri de l'Éternel. L'entrée de l'abri de l'Éternel se passe par la foi accompagnée des œuvres de la foi. C'est un avant-goût du royaume de Dieu avec son Christ. Le croyant chrétien qui vit par la foi, il est dans l'abri du Très-Haut. Il est sous l'ombre de l'Éternel. Prenons un psaume, psaume 91, de 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Frères et sœurs en Christ, si vous constatez très bien, les amis de Daniel dans la fournaise, le roi a vu un quatrième homme alors qu'ils étaient seulement trois amis de Daniel. Et ceux qui les ont précipités dans la fournaise étaient consumés par le feu. Les amis de Daniel regardèrent seulement avec leurs yeux la rétribution de ces méchants. Pour recevoir et connaître toutes ces choses, il faut apprendre à utiliser cette clé. Il faut connaître les ingrédients que compose cette clé. Dieu, par son amour, comme le Seigneur le dit, prenons Jean 14, de 18 à 21, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, comme dans le psaume 91, verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ce passage est une assurance, car le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il sera avec nous dans tout ce qui menace notre vie, mais à une seule condition, être dans l'abri, et cela par la foi et la confiance à sa parole. Amis en Christ, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il a appelé certains de nos frères et les a rendus capables de nous montrer comment utiliser la clé. Ne négligez pas ces enseignements, frères et sœurs. Cela nous est important si nous voulons entrer dans l'abri du Très-Haut et être sous l'ombre de l'Éternel jusqu'à la fin de la course pour ouvrir la porte du royaume et d'y entrer. Mais il faut être vigilant. Demandez l'esprit de discernement pour démasquer les brigands, les voleurs, les mercenaires, les falsificateurs de la vérité. Vous devez savoir que Satan, qui a été privé de l'abri et du royaume, il est devenu colérique. C'est un lion enragé qui cherche à se venger sur les enfants de Dieu. Il a aussi envoyé ses serviteurs pour nous tromper, afin de nous détourner, dérouter de l'abri et du royaume de Dieu et son Christ. Attention, ils viennent sous la peau d'agneau. Ils utilisent le nom de Jésus. Mais si vous observez bien, vous démasquerez l'ivraie qu'ils essayent malignement de semer. Ils vont parler de Jésus, mais vous entendrez glisser l'ivraie. Une bouteille pleine d'eau potable avec une toute petite goutte de poison versée dans cette eau devient poison et imbuvable. Alors faites attention, ouvrez les oreilles et les yeux. La plupart de ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui vous amènent vers Moïse, sa loi et ses ordonnances, ne sont pas des serviteurs appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont des usurpateurs. Hébreux 7:12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Hébreux 8:7-10. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Comment les enfants de Dieu se laissent-ils abuser par ces autoproclamés? Moïse n'est plus notre médiateur, ni Aaron son frère notre souverain sacrificateur. Leur sacerdoce a été changé. Pourquoi vous les suivez? Eux-mêmes ne sont pas rentrés dans la terre de la promesse. Comment leurs lois et leurs ordonnances pourront vous faire entrer dans le royaume ou vous faire reposer sous l'abri du Très-Haut, l'Éternel Dieu? Ceux qui vous amènent à l'ancienne alliance, ils vous amènent à la mort, car le ministère de Moïse est un ministère de la mort et de la condamnation. Jean 8, 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Vous voyez la loi et les ordonnances de Moïse. Il faut tuer, il faut lapider. Cette loi ne donne pas la vie. Point. 2 Corinthiens 3, versets de 7 à 11. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Mais le Seigneur Jésus n'était pas venu pour ôter la vie de cette femme. Il a plutôt pardonné à cette femme, en lui recommandant de ne plus refaire cela, c'est-à-dire de ne plus pécher. Jean 17, 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 8, 10, 11. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit: « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pèche plus. » Suivez et écoutez les vrais appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est toujours avec eux jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur les a rendus capables de vous montrer le chemin et surtout comment utiliser la clé de la vie, la clé du trésor. C'est Jésus, le seul vrai Jésus, le Fils de Dieu, qui détient cette clé de la vie ou la clé du trésor. Jean 14, versets 6 et 7. Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Jésus est le seul que Dieu le Père nous a demandé de l'écouter. Dieu le Père ne nous a pas demandé d'écouter Moïse, ni Élie le prophète, ni tous les serviteurs de Dieu de l'ancienne alliance, car tous ont été disqualifiés. Ils ont aussi été dépouillés de leur autorité et de leur domination sur les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Colossiens 2, versets de 14 à 19. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Matthieu 17, de 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Frères et sœurs en Christ, ces vendeurs d'illusions ne vous donneront pas la connaissance d'utilisation de la clé. Attention, c'est très important, car la clé, sans cette connaissance d'utilisation, ne vous permettra pas d'ouvrir l'abri du Très-Haut, ni la porte qui mène vers le royaume. Mais assumez votre choix. Vous avez pris une décision de porter le nom de Jésus par le baptême dans les eaux qui coulent. Vous avez choisi de garder la clé de la vie. On ne vous a pas forcé ni obligé à être croyant chrétien. Vous n'avez pas rejeté cette clé que vous avez reçue de Dieu par Jésus-Christ. Ne soyez pas dans une position de nini. Il faut assumer votre choix d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'apprendre comment utiliser cette clé. La parole de Dieu est la clé qui permet à tous les enfants adoptifs de Dieu, par Jésus-Christ, notre médiateur et souverain sacrificateur devant son Père, de vivre la parole de Dieu et de la mettre en mouvement dans votre corps. Cela vous permettra d'accomplir la volonté de Dieu, son Père, et notre Père. Assumer cela veut dire ne pas négliger l'enseignement donné par les véritables appelés pour accomplir cette tâche du ministère d'enseignement de la parole et la vérité qui est en Jésus-Christ. Cela nous amène ensemble à aborder l'autre sujet de cet enseignement. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il rentre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Cette maison balayée et ornée est tout simplement le croyant chrétien qui a accepté de porter le nom de Jésus par le baptême dans les eaux qui coulent. Il est lavé, purifié, habillé, les souliers aux pieds. Il commence à cultiver la vie de Dieu, la nature de Dieu en lui. Dieu le remplit de la joie de Dieu saint, de la vérité de Dieu, de la justice de Dieu, bref, de l'amour de Dieu. Genèse 2, 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette maison balayée et ornée, donc ce croyant chrétien qui a accepté de porter le nom de Jésus, a des manques dans sa vie charnelle. Il oublie ce qu'il était, et surtout de ce vide de la joie, de la vie de Dieu qui était en lui. Au retour de cet esprit impur en manque de repos, cet esprit impur retrouve et retourne dans son ancienne maison vide et propre, c'est-à-dire balayée et ornée. Cela s'appelle tristesse. Cet esprit impur prend quartier dans la maison. Il lance sa première invitation à deux esprits, plus méchants que lui, l'esprit de convoitise et l'esprit d'envie, car l'homme ne croit plus à Dieu et n'a plus confiance en lui. Les deux esprits, à leur tour, vont lancer l'invitation à d'autres esprits plus méchants qu'eux, l'esprit de vol, l'esprit de haine, l'esprit de prostitution, l'esprit de jalousie, esprit de meurtre. Tous vont habiter le corps de cet homme. La vie de cet homme devient le cauchemar. Pour combler ces manques, chacun de ces esprits vont exercer leur mission. Cet homme ou cette femme va se mettre à voler. Il ou elle va se donner à la prostitution. Il va devenir jaloux de ceux qui ont des choses que lui désire. Il va même à commettre des actes irréparables, comme des meurtres. Tout cela pour satisfaire ses envies et combler sa vie de choses qu'il a besoin. Il a oublié la parole de Dieu. Or que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, dans les versets de 16 à 24, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Si cet homme, ce croyant chrétien, avait gardé la joie en lui, malgré les manques dans sa vie, s'il avait la foi, c'est-à-dire confiance à celui qui l'a racheté et qui lui a donné la clé de la vie, alors ses manques auraient été comblés. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui aurait demandé à son Père pour que ses manques soient comblés. Cet homme, ce croyant chrétien aurait gardé la joie en lui. Ses esprits n'auraient pas créé cette situation. Mais ce croyant chrétien a voulu combler sa vie par ses propres moyens. Alors que Dieu a dit, prenons Zacharie 4, 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc c'est Dieu qui comble les manques des hommes. Mais ceux qui cherchent par leurs propres moyens ont toujours recours à des voies illégales. Frères et sœurs en Christ, si nous avons fait le choix et cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous devons assumer ce choix jusqu'au bout. Si nous sommes dans la joie de Dieu en vivant la vie de prière, qui est la vie de Dieu par Jésus-Christ. Ces esprits impurs trouveront toujours dans ton corps l'Esprit de Dieu, la puissance créatrice. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut savoir que la patience est importante pour un enfant de Dieu. Étant rempli de la joie, il faut accomplir à tout moment les œuvres de la foi. Acceptez. Tolérer, supporter, te maîtriser, patienter et attendre le temps de Dieu. Car Dieu a dit qu'il te bénira au temps favorable selon sa volonté. 2 Corinthiens 6, 2 à 4. car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Même si nous avons des manques, des tribulations, des difficultés, des maladies, la pauvreté, nous devons toujours manifester la patience dans la joie, car celui à qui nous appartenons n'oublie point ses enfants adoptifs. Il les exaucera au temps fixé par lui seul. Un homme, surtout le croyant chrétien, ne dépend pas de sa volonté, ni de sa liberté, moins encore de sa nature, car nous sommes en tant que croyants chrétiens la propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons pas. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers frères et chères sœurs en Christ, les croyants chrétiens, les enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ, ne s'appartiennent point. Ils appartiennent à Dieu le Père. Ils ont été rachetés par un grand prix. Donc ils sont la propriété de Dieu. Ils n'ont pas à imposer leur volonté à Dieu, mais ils ont l'obligation de se soumettre à la volonté de Dieu. Comme notre frère Jésus-Christ, qui s'est porté garant pour nous racheter. Nous tous, les enfants de Dieu et héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ, nous vivons pour notre Père. C'est notre Père qui est notre vie et notre mouvement. Car c'est cela que nous recevons de Dieu notre Père. Cela fait de nous la race et la famille de Dieu. Acte 17, 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Amis en Christ, assumons notre choix. Car nous sommes devenus croyants chrétiens, non par obligation, mais c'est le choix. Alors assumons ce choix jusqu'au bout, sans regarder encore derrière. Nous sommes sortis de l'esclavage. Jésus a payé par sa vie. Alors, frères et sœurs, ne regardons plus notre vie passée de convoitise et d'envie, mais revêtons-nous d'une vie nouvelle créée selon Dieu. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La tristesse conduit toujours à la mort, mais la joie de Dieu conduit à la vie. Jean 10, versets 10 à 15. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Soyons dans la joie. heureux d'appartenir à la race de Dieu, la famille de Dieu. Demeurons fermes dans la marche avec notre Dieu le Père par Jésus-Christ. Jésus-Christ est resté ferme. Il n'a pas trahi son choix de nous racheter et de faire de nous les enfants adoptifs de son Père. Il a assumé cette mission sans regarder derrière. C'est cet exemple que doit suivre le croyant chrétien, le fils adoptif de Dieu par Jésus-Christ, son frère, et dont il est le co-héritier du royaume de Dieu et son Christ. Et si le croyant chrétien veut aussi hériter de ce royaume et être glorifié comme son frère Jésus, il doit assumer ce choix, c'est-à-dire accepter de souffrir comme Jésus a souffert. Cela n'a rien à voir avec le port de la croix, car cela a été demandé uniquement à Jésus, le Fils de Dieu, d'accomplir ce sacrifice et offrande du corps sur la croix, car c'est le prix à payer pour le rachat du fils d'Adam que nous étions. Mais les souffrances que connaissent tous les hommes, Jésus les a connues. Il a eu faim, soif, il a été malade. Il n'avait pas un lieu ou une maison pour reposer son corps, n'avait pas une valise pleine d'habits, il n'avait qu'une paire de sandales. Mais il n'était pas triste, car il avait confiance à son Père, et son Père ne l'a jamais abandonné. Dieu son Père l'a glorifié. C'est ainsi, si le croyant chrétien reste ferme dans sa foi avec son Père et Jésus son frère, alors le croyant chrétien lui aussi sera glorifié. Romains 8, de 14 à 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amis, assumons notre choix en accomplissant la volonté de Dieu, qui est de mettre la parole en pratique. Jacques 1, versets de 22 à 25. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frères et sœurs en Christ, ne négligeons pas les enseignements. Par les enseignements vrais des serviteurs appelés par Jésus-Christ, vous découvrirez la vérité qui est Jésus. Et cette vérité vous éclairera et vous permettra de bien utiliser la clé de la vie que nous avons reçue de Dieu notre Père par Jésus-Christ. Cette vérité nous affranchit. Nous ne serons plus esclaves des hommes. Nous ne serons plus sous la domination ou sous l'autorité des hommes. Nous dépendrons plus des coutumes et des commandements des hommes. Dans toutes les religions, la vérité de Jésus est falsifiée. La vérité de Jésus-Christ est cachée. On l'a remplacée par les traditions, les coutumes des hommes. Matthieu 15, 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche » et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voici comment le Seigneur nous montre comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ces chefs religieux. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Frères et sœurs en Christ, lire les Écritures dans la Bible, c'est bien, mais comprendre et saisir la vérité, c'est mieux. La lettre, c'est-à-dire la lecture verbale, ne pourra jamais nous révéler la vérité qui est en Jésus. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, car lui seul peut révéler et faire connaître la vérité. Jean 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Oui, Jésus-Christ qualifie ses serviteurs en demandant à son Père de leur donner son esprit de vérité, qui leur permettra de saisir et comprendre les Écritures. Jean 20, versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pour enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes qui peut rendre un homme capable de connaître la vérité qui est en Jésus. C'est pourquoi qu'il y a une multitude de religions avec chacune sa doctrine. Donc leur enseignant qu'on appelle docteur en ceci ou en cela, n'ayant pas été investi par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, ce docteur en ceci ou en cela enseigne par la lettre. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amis en Christ, soyons vigilants. Satan a rempli ce monde de ses serviteurs. Ils viennent comme des agneaux, mais ce sont des loups en puissance. Ils viendront toujours par le nom de Jésus. Mais en réalité, ce sont des ennemis du Christ. Ils ne peuvent pas proclamer leur Seigneur. Ils savent très bien qu'en proclamant leur maître, personne ne les suivra. Alors, comme ils sont les serviteurs du malin, ils imitent leur maître, le rusé. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Vous remarquez que Satan ne vient que sur ce que Dieu a dit. Mais lui, Satan souffle le doute pour piéger, car ce rusé voulait enfermer la femme, ignorante qu'elle était. De même, ses serviteurs de Satan adoptent la même stratégie satanique. Mais si on est ignorant, cette lumière de la lune pourrait être prise pour la lumière du soleil. Alors que la lune ne donne pas les détails d'une figure à quelques mètres, mais la lumière du jour ou la lumière du soleil, même à 100 mètres, on reconnaît l'homme qui vient. Ses serviteurs de Satan vont amener les enfants de Dieu à la pratique de l'ancienne alliance. Alliance que Dieu a changée à cause de son imperfection et de son inefficacité. C'est pour cela qu'ils disent « Dieu ne change pas ». Hébreux 7, 18 et 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 8, 7 et 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. D'ailleurs, dans leur prêche, on entend toujours le nom du prophète de l'ancienne alliance. Malachi, verset 10-11. C'est maman qui est leur Dieu, leur évangile c'est leur ventre. Malachi n'est pas le prophète de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul prophète, à la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Hébreux 1, de 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ceux qui s'auto-proclament prophètes, on se pose la question, qui les a établis prophètes? Il n'y a qu'un seul prophète, Jésus-Christ le vivant. Tout croyant chrétien selon la volonté de Dieu peut prophétiser pour donner un message de Dieu. On reçoit une portion de l'esprit de prophétie. Toute la plénitude de l'esprit de la prophétie est en Jésus-Christ le vivant. Frères et sœurs en Christ, par cet enseignement, vos yeux commencent à s'ouvrir et vos oreilles commencent à se déboucher. Avant de terminer cet enseignement, prenons Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Gloire à Dieu.